Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour, merci à toutes et à tous de vous être connectés à cette session de sensibilisation. Alors aujourd'hui, on va être deux intervenants du MEDEF, donc moi-même qui suis chargée de mission égalité, diversité et inclusion, et Sherpa adjointe de la commission entreprise dans la société et inclusion du MEDEF, et puis Florian qui va se présenter.
Bonjour à tous, donc du coup Florian Colombi, chargée de mission au sein de la direction des relations sociales et politiques de l'emploi.
On va avoir aussi trois intervenants extérieurs aujourd'hui, que je remercie d'avance et que vous aurez le plaisir d'entendre en deuxième partie de webinaire. Clément Viéder du service droit des femmes qui est à côté de moi, Géraldine Lardian du MEDEF Sud qui est connectée à distance, et Florence Chappert de l'ANACT qui est aussi connectée à distance, mais on reviendra sur leurs interventions juste après. Pour vous donner un ordre d'idée, on va tout d'abord vous présenter les définitions et les cadres juridiques des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail et un peu plus largement. On va faire un constat sur les violences sexistes et sexuelles en général, et puis avec un point spécifique sur celles qui arrivent dans le cadre du travail, puis on va faire un peu un panorama des obligations légales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Et puis après, on reviendra sur les bonnes pratiques, les témoignages de nos trois intervenants. Alors, on va dire beaucoup violences sexistes et sexuelles au travail dans ce webinaire. Donc, si on dit VSS ou VSST, ça veut dire violences sexistes et sexuelles ou violences sexistes et sexuelles au travail. Voilà. Sans plus tarder, je passe la parole à Florian.
Les violences sexistes et sexuelles donc au travail recouvrent en réalité plusieurs types de comportements violents qui sont soit réprimés par le code du travail et ou le code pénal. Ces comportements peuvent aller donc des injures sexistes jusqu'au viol et peuvent se cumuler entre elles. Ces définitions juridiques donc encadrent les obligations de l'employeur et les sanctions pénales pour les auteurs. Il est parfois difficile de distinguer certaines de ces notions. C'est justement l'objectif de cette première partie du webinaire. À noter tout d'abord que les violences sexistes font en général référence donc à une atteinte à la dignité en raison de l'identité de sexe, alors que les violences sexuelles touchent directement à la sexualité. Je le précise d'entrée, donc au regard de l'ordre du jour extrêmement chargé de ce webinaire, je vais parfois passer un peu vite sur certaines définitions donc juridiques, en concentrant sur les situations donc les plus communes, on va dire, au sein de l'entreprise et du monde du travail. Alors tout d'abord, une notion qui est reconnue donc dans le code du travail, qui a été introduite donc par la loi Rebsamen du 17 août 2015, est l'interdiction donc de tout agissement sexiste. Donc qu'est-ce qu'on entend par les agissements sexistes ? Donc il s'agit de tout agissement qui est lié au sexe d'une personne, qui a pour objet ou pour effet donc de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il peut s'agir donc de provocations ou injures ou diffamations qui sont même non publiques et commises donc en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle de la victime. Cela peut être des faits à la fois donc des personnes internes ou externes à l'entreprise. Alors ensuite, le harcèlement sexuel, donc c'est la seule violence sexuelle donc qui est reconnue dans le code du travail. Le harcèlement sexuel est également sanctionné donc dans le code pénal. En ce qui concerne l'articulation entre la définition du code du travail et du code pénal, les deux définitions sont désormais plutôt harmonisées, avec toutefois une différence majeure entre les deux. Donc c'est l'élément intentionnel qui est requis dans la qualification pénale. Qu'est-ce qu'on entend par harcèlement sexuel ? Donc, avec la définition du code du travail, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer donc à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit donc, porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors, à cette définition s'ajoute une autre définition du harcèlement sexuel, donc qui peut être concomitante, qui peut caractériser le harcèlement sexuel. Et elle est moins connue, on va dire, du grand public. C'est le harcèlement sexuel qui est assimilé à toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. Donc, c'est ce qu'on pourrait qualifier donc de chantage sexuel. Donc là, vous avez sous les yeux donc du coup une liste de comportements donc qui peuvent caractériser un harcèlement sexuel. Donc, y compris en l'absence d'agissement explicitement sexuel, donc d'une relation hiérarchique entre l'auteur des faits et la victime, d'une contestation expresse de la victime, d'agissement commis sur le lieu de travail, d'un acte recherché au profit direct de l'auteur du harcèlement. Et le harcèlement sexuel peut donc également être reconnu même qu'un même salarié ait subi de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il y a également un cas à peu près identique, mais où les personnes ne se sont pas concertées entre elles, mais pouvaient légitimement estimer et penser que cela allait avoir des conséquences de façon répétée sur la victime. Alors également une notion à avoir en tête, donc c'est le harcèlement sexuel d'ambiance. Donc il s'agit d'agissements pouvant viser directement la victime, mais le harcèlement sexuel pourrait être caractérisé à partir du moment où la victime évolue donc dans un environnement professionnel qui sera marqué par des comportements et propos donc sexistes et à connotation sexuelle. Donc même si cela ne vise pas directement la victime. Donc, vous avez sous les yeux la liste donc des sanctions encourues par l'auteur d'harcèlement sexuel, donc à la fois une sanction disciplinaire, qui pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, une sanction civile et une sanction pénale. Donc là, cette diapositive liste quelques exemples de harcèlement sexuel. Donc, je ne vais pas vous les énumérer un par un, mais on a des formes verbales, des formes par écrit, notamment avec les outils numériques, de multiples signes non-verbaux ou des attitudes à connotation sexuelle, et aussi des contacts physiques non constitutifs d'agression sexuelle, mais pouvant caractériser, donc sous couvert, on va dire, de gestes totalement anodins et désintéressés bienveillants, en réalité, recouvrant du harcèlement sexuel. Alors, cette notion de harcèlement sexuel est parfois indûment employée, et il convient donc de la distinguer de d'autres violences sexuelles et sexistes donc que nous allons voir par la suite. Et donc ces autres formes de violences sont reconnues et prévues, sanctionnées dans le code pénal. Mais il n'y a pas de disposition les concernant dans le code du travail. Alors tout d'abord, trois notions à distinguer dans le code pénal qui sont parfois, on va dire, confondues entre elles. Donc, tout d'abord, l'atteinte sexuelle, donc, qui est définie comme tout contact sexuel avec ou sans pénétration commis donc, sur une personne de moins de 15 ans, sans violence, contrainte, menace ni surprise. Ensuite, on a l'agression sexuelle, donc, qui est tout d'abord un délit, caractérisé par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et donc, pour caractériser une agression sexuelle au sens du code pénal, donc il faut à la fois un élément intentionnel et un élément moral. Alors, l'élément matériel, va être l'atteinte sexuelle. Donc, il va s'agir d'un contact physique avec une partie sexuelle. Donc, il y a cinq parties connues, donc les fesses, le sexe, les seins, la bouche et les cuisses. Et également, donc, l'imposition de cette atteinte sexuelle vis-à-vis de la victime. Il n'y a donc pas de consentement de la victime. Et ensuite, l'élément moral qui doit être établi, c'est l'intentionnalité. Donc l'auteur de l'agression doit avoir conscience de la nature de ses actes et donc du défaut de consentement de la victime. Là, c'est à nuancer parce qu'on a vu, comme on l'a vu précédemment, le harcèlement sexuel ne sont pas forcément des actes répétés, même si c'est la définition originale. Mais en tout cas, au niveau de l'agression sexuelle, donc la répétition n'est aucunement nécessaire, dans aucun cas. Et enfin, on distingue le viol, donc de l'agression sexuelle et de l'atteinte sexuelle. Donc le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelle nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui, ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc il faut réunir à la fois, donc, pour caractériser l'infraction pénale, donc un élément matériel, la pénétration sexuelle, donc qu'on a défini juste au-dessus, et un élément moral, donc la conscience d'imposer des rapports sexuels contre la volonté de la victime. Alors, avec le viol, l'auteur peut encourir une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Enfin, donc du coup, l'outrage sexiste ou sexuel, donc est une définition introduite dans le code pénal, donc suite à la loi Schiappa du 3 août 2018, dans le but de lutter donc contre les comportements fréquemment rencontrés dans la rue en entreprise. Donc, qu'est-ce que l'outrage sexiste ou sexuel? Donc, cela consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexiste ou sexuelle qui porte atteinte à sa dignité ou qui l'expose à une situation intimidante, hostile ou offensante. Voilà, vous avez quelques exemples sous les yeux donc d'outrage sexiste ou sexuel. Donc, la sanction est une amende donc de 1 500 €. Et il y a désormais un délit, donc outrage sexiste ou sexuel aggravé, donc qui est prévu dans le code pénal depuis le 1er avril 2023, donc qui est passé au niveau du délit et non plus de contravention. Donc il s'agit de la même infraction donc commise dans les circonstances suivantes, c'est-à-dire soit par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions, soit commis sur une personne mineure. Voilà, sur une personne particulièrement vulnérable, donc en situation de grossesse, déficience physique ou psychique, etc. Ou alors des agissements commis en groupe. Et enfin, donc la sanction donc est de 3 750 €. Il est également possible donc de peine complémentaire, donc à savoir la suivi d'un stage ou de travail d'intérêt général.
Merci beaucoup, Florian. Pour ces définitions, maintenant que vous savez de quoi on parle quand on parle de violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail et en dehors, on va vous présenter rapidement en fait la prévalence de ces violences sexistes et sexuelles dans la société et puis plus particulièrement dans le monde du travail. Pour revenir sur les violences sexistes et sexuelles en général, donc les femmes sont les premières victimes de violences sexistes et sexuelles, donc de VSS en France. En 2022, il y a eu plus de 84 000 cas de violences sexistes et sexuelles qui ont été enregistrés par la police et donc qui concernaient dans une grande majorité des femmes, donc à 87%. Et un peu moins d'un tiers de ces violences étaient commises dans le contexte intrafamilial. On sait également que ces violences sont largement sous-estimées, puisqu'on estime aujourd'hui que seulement une victime sur trois porte plainte pour violences sexistes et sexuelles en France, donc selon le ministère de l'Intérieur. Selon le Haut Conseil à l'égalité, et j'en profite pour faire une aparté, puisque aujourd'hui le Haut Conseil à l'égalité, au sein duquel le MEDEF siège dans la formation égalité professionnelle, vient de publier son état des lieux du sexisme en France. C'est un rapport qui fait état notamment de la prévalence des stéréotypes, des comportements sexistes en France, dans à peu près tous les domaines de la société et de l'économie. Donc voilà, je vous invite à aller regarder le nouveau rapport 2024 qui a été publié ce matin. Et donc selon ce rapport, 9 femmes sur 10 déclarent avoir vécu personnellement une situation sexiste au cours de sa vie. Donc pour 14% d'entre elles, ça a été un acte sexuel imposé, donc c'est-à-dire une agression sexuelle ou un viol comme on vient de le voir. Que Florian nous a expliqué. Ça, le viol et les agressions sexuelles sont prévalentes chez les jeunes femmes de 18 à 24 ans. Et pour ce qui est des violences domestiques / conjugales, c'est soit des situations d'emprise ou des situations de violence physique perpétuées par un partenaire ou une partenaire. Elles sont plus prévalentes chez les femmes âgées de 50 à 64 ans. On vous a mis les sources exprès si vous voulez aller voir toutes ces données. Concernant les actes sexistes et violences sexuelles dans le monde du travail, donc selon le ministère de l'égalité, donc il y a à peu près 38,5% des femmes qui déclarent avoir été victimes au moins une fois de comportements sexistes ou sexuels au cours de leur vie professionnelle. Ça représente, au niveau des hommes, c'est 14%. Et au sein de ces 38,5% de femmes, à peu près 15% déclarent l'avoir été dans leur emploi actuel, contre un peu moins de 4% des hommes. On voit que ces agissements, ces violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail, elles sont multiformes, comme vous l'avez vu avec la présentation de Florian. Elles peuvent prendre la forme d'humour. Donc c'est plus de trois quarts des femmes et deux tiers des hommes qui ont été exposés au sexisme sous le masque de l'humour dans leur entreprise. Et puis ensuite, elles peuvent aussi se baser sur des stéréotypes négatifs à l'encontre des femmes ou des hommes, ou de la féminité et de la masculinité, mais aussi par rapport à la maternité maternité. Donc on voit que 7 femmes sur 10 ont déjà entendu des stéréotypes négatifs à l'égard des femmes managers et plus d'un tiers des femmes ont été exposées à des propos associant la maternité à un frein pour leur carrière et leur entreprise. Donc ça, c'est des chiffres qui sont issus du baromètre sur le sexisme ordinaire au travail qui est publié chaque année par l'Association des Françaises des managers de la diversité. Donc je vous invite aussi à aller voir les résultats de cette étude. Alors maintenant qu'on a fait le constat qu'il y a beaucoup de violences sexistes et sexuelles au travail et en dehors, il faut quand même préciser que les entreprises, depuis notamment MeToo, le mouvement MeToo qui a libéré la parole sur ce type de violence dès 2018, mais aussi pour certaines d'entre elles qui se sont engagées en amont du mouvement MeToo sur ces sujets. Donc les entreprises s'engagent et luttent activement contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Selon le même baromètre de l'AFMD, 65% des salariés considèrent que leur entreprise est activement engagée contre le sexisme. Et c'est donc un peu moins de femmes que d'hommes, mais 29% des femmes et 37% des hommes qui considèrent que les propos et comportements sexistes ont reculé au sein de leur entreprise, et peut-être par le fait que un quart des salariés à l'heure actuelle ont été sensibilisés à la lutte contre les VSST dans leur entreprise. Alors, les dernières données que je vais vous partager, c'est des données du baromètre du MEDEF sur la perception de l'égalité des chances en entreprise. C'est un baromètre qu'on publie depuis plus de 12 ans avec Kantar Public et qu'on publie à l'occasion de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive qu'on organise chaque année en octobre. Donc, j'espère qu'il y en a parmi vous qui étaient présents l'année dernière. Et selon notre baromètre, qui est un baromètre de perception, 80% des salariés estiment que l'égalité des chances, dont l'égalité professionnelle, et donc qui inclut la lutte contre les VSST, donc c'est un sujet prioritaire ou important pour leur direction. Il y a 72% qui sont capables de citer au moins une action menée dans leur entreprise en lien avec ces sujets, et la même proportion qui juge ces actions efficaces. Et c'est important de noter que les jeunes, donc la proportion 16-34, ils sont plus vigilants sur les actions menées par leur entreprise, mais ils les jugent aussi plus efficace. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité des résultats de ce baromètre sur la page ressources égalité des chances du MEDEF.
Alors, l'employeur donc a une obligation de prévention du harcèlement sexuel. Donc, il s'intègre dans l'obligation générale de l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger donc la santé physique et mentale des travailleurs. Donc à ce titre, l'un des principes généraux donc de prévention énonce que l'employeur doit planifier la prévention en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral ou harcèlement sexuel, donc tels qu'ils sont définis donc par le Code du travail. Donc il doit planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent donc la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Donc, notamment du harcèlement sexuel. L'employeur est tenu donc de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Donc cette obligation donc impose notamment à l'employeur de mettre en œuvre des mesures de formation et d'information propres à prévenir donc les faits de harcèlement sexuel. Donc la responsabilité de l'employeur peut être engagée dès lors qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires donc de prévention qui sont visées par le Code du travail. La responsabilité de l'employeur peut être engagée donc sur le fondement de l'obligation de sécurité, quand bien même donc la qualification pénale de harcèlement sexuel n'aurait pas été retenue par les juges. L'employeur encourt donc une sanction par le juge civil donc de paiement de dommages et intérêts donc pour couvrir donc l'ensemble du préjudice subi par la victime. Alors spécifiquement en matière donc de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, donc quelles sont les obligations donc légales pour l'employeur, en tout cas les dispositions prévues par le Code du travail. Donc il y a plusieurs actions qui sont désormais donc obligatoires pour les employeurs, qui doivent être mises en place donc dans le cadre d'une politique de prévention globale, donc d'un plan d'action global, qui ne doivent pas donc se limiter donc à ces obligations. Donc tout d'abord, une obligation d'information donc des salariés, y compris donc des stagiaires et candidats à un emploi, donc par tout moyen. Donc c'est des obligations d'affichage, donc tout d'abord l'article du Code pénal définissant le harcèlement sexuel et prévoyant donc les sanctions encourues, un affichage également donc des actions civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel pour les victimes, Et enfin, un affichage des coordonnées donc des autorités et services compétents, donc par exemple du médecin du travail ou de l'inspecteur du travail. Ensuite, il y a une obligation selon la taille des entreprises, donc de désignation des référents harcèlement sexuel. Alors, dans les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur a une obligation de nommer un référent donc désigné par lui-même. Et dans toute entreprise de plus de 11 salariés, donc disposant d'un comité social et économique, il y a également donc le CSE doit nommer parmi ses membres donc un référent harcèlement sexuel spécialisé sur le sujet. Alors ensuite, il y a une obligation donc dans les règlements intérieurs donc de prévoir des dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Donc c'est ce qui est prévu donc par le code du travail. Donc dans le règlement intérieur, nous le rappelons donc pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ensuite, les entreprises donc ont une obligation issue donc de l'ANI, de l'accord national interprofessionnel, donc du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail. Donc obligation d'élaborer donc une procédure interne de signalement et de traitement donc des faits de harcèlement sexuel. Et enfin, parmi les obligations, les actions obligatoires pour l'employeur, donc la formation des membres du comité social économique, notamment formation au harcèlement sexuel et agissement sexiste au travail. On peut énumérer donc d'autres actions qui ne sont pas obligatoires pour l'employeur, mais qui sont fortement recommandées et complémentaires. Donc, dans l'objectif donc de mener une politique de lutte et de prévention contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et par la même occasion, du coup, de répondre à l'obligation légale donc de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes. Donc, tout d'abord, la sensibilisation des salariés en allant au-delà donc des informations obligatoires que nous avons vues précédemment en matière d'affichage des réglementaires. Donc cela peut passer notamment donc par l'envoi aux collaborateurs donc de notes de service sur le sujet, de courriels, des affichages dans les locaux, toute forme de sensibilisation donc sur ces violences sexistes et sexuelles au travail. Ça peut également passer donc par la tenue de réunions de service sur le sujet, notamment pour les managers. Alors ensuite, il est également essentiel donc pour les entreprises d'intégrer donc le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans la politique en fait de dialogue social en entreprise, donc que ce soit au niveau donc de l'entreprise, donc au niveau de l'entreprise donc en l'insérant dans le cadre de la NAO sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail, mais également donc au niveau des branches professionnelles avec une fois tous les 4 ans des négociations devant porter sur les modalités de mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Enfin, pour finir, donc on rappelle également l'importance donc de former le personnel encadrant et l'ensemble des managers donc sur ces notions de harcèlement sexuel et agissements sexistes, donc qui sont parfois totalement méconnues des managers. On a évoqué donc tout à l'heure les obligations pour l'employeur donc en termes de prévention. On a également indiqué donc qu'il avait également une obligation de mettre fin et de sanctionner le harcèlement sexuel. Donc dans ce cas, que doivent faire les employeurs pour respecter les obligations légales? Je précise toutefois que l'obligation est de mettre fin et de sanctionner le harcèlement sexuel. Donc les différentes étapes qui sont énumérées ne sont pas forcément obligatoires dans l'ordre dans lequel elles sont données, mais en tout cas c'est ce que nous recommandons fortement de réaliser au sein de votre entreprise. Tout d'abord, il est recommandé donc de mettre en place un dispositif d'alerte et de le faire connaître. Donc cela rejoint l'obligation légale de mettre en place une procédure interne de signalement et de traitement des faits de harcèlement sexuel au travail. Ensuite, donc il est recommandé en cas de dès que l'employeur a connaissance des faits de harcèlement sexuel, donc de tout mettre en œuvre pour protéger les victimes, mais également tous les témoins qui aurait pu être soit avoir assisté à la scène ou alors être auteur de l'alerte en question. Alors, un point assez important dont on peut poser la question est quid en fait de la poursuite des relations de travail donc au cours de l'enquête. Donc c'est vrai qu'il peut être assez délicat donc pour une victime d'être toujours en contact avec avec un auteur de harcèlement sexuel. Donc on recommande de ne pas donc d'exclure en fait tout contact dans la mesure du possible entre la victime et l'auteur de harcèlement sexuel, l'auteur présumé en tout cas de harcèlement sexuel, y compris si possible avec également les témoins auteurs de l'alerte. Donc il est notamment possible et envisageable donc d'affecter provisoirement un des salariés dans un autre service le temps de mener l'enquête. Donc nous le précisons toutefois tout en respectant évidemment le consentement donc de la victime qui n'a pas à subir les conséquences de l'enquête en cours. Et enfin, donc si les faits signalés à l'employeur donc sont suffisamment graves et l'empêchent de maintenir le salarié provisoirement dans l'entreprise, donc il est possible de mettre à pied à titre conservatoire le temps de l'enquête en décidant soit de maintenir ou non le salaire du salarié. Alors ensuite, il est recommandé donc de mener une enquête interne qui doit être contradictoire et confidentielle et de la mener le plus rapidement possible, de sorte de préserver notamment l'anonymat des témoins et voilà, de préserver également l'anonymat de la victime. Alors ensuite, donc il y aura un rapport d'enquête interne qui sera rendu public, en tout cas public auprès du directeur des ressources humaines et de la direction. Il faudra donc il y a ensuite donc du coup une décision à prendre. Soit le rapport d'enquête permet d'attester donc d'avérer un harcèlement sexuel. Dans ce cas, l'employeur doit prendre une décision et sanctionner donc l'auteur des faits. Donc sanctions disciplinaires pouvant aller donc jusqu'au licenciement pour faute grave. Soit l'enquête n'a pas été concluante. Alors dans ce cas-là, il est très important donc de protéger le ou la salariée qui était victime, ainsi que les témoins donc qui ont signalé notamment qui ont signalé l'alerte, ou alors qui ont contribué à travers des témoignages et qui ont dénoncé les faits de harcèlement, et donc de prendre toutes les mesures afin d'assurer donc la poursuite de la vie professionnelle du salarié et des témoins donc au sein de l'organisation. Enfin, précision, notamment parce que ce n'est pas parce que l'enquête n'a pas été concluante qu'il n'y a pas eu de harcèlement sexuel au travail. On peut très bien également ne pas avoir obtenu de preuves suffisantes. Et donc à noter aussi également très important, en parallèle de la procédure organisée par l'employeur, il peut avoir évidemment donc une procédure pénale. Donc même si le juge pénal a statué et relaxé une personne mise en cause donc pour harcèlement sexuel, l'employeur est tout à fait en droit donc de sanctionner le salarié en fait auteur des faits. Encore une fois, ce n'est pas parce que le juge pénal a statué et relaxé une personne qu'il n'y a pas lieu à avoir sanction. Il peut très bien ne pas avoir de l'élément intentionnel. Comment dire, non, qui est nécessaire donc à l'infraction pénale. Donc voilà, il peut avoir suffisamment de preuves pour sanctionner un salarié.
Pour rebondir rapidement sur ce que Florian a mentionné, notamment le fait que voilà, la démarche de lutte contre les VSST doit s'inscrire dans une démarche plus large de promotion de l'égalité professionnelle en entreprise. Le label égalité professionnelle, je voulais en dire deux mots, puisque c'est une manière notamment de récompenser les entreprises qui sont vertueuses et qui s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue, puisque au sein du cahier des charges de ce label qui a été créé en 2004 et qui vise à promouvoir l'égalité professionnelle dans le secteur public et privé, il y a une grande partie sur la lutte contre les stéréotypes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et notamment depuis peu, donc le cahier des charges a été revu. Donc il y a 3 cahiers des charges, hein, fonction publique, un moins de 50 salariés, un plus de 50 salariés, et puis donc le cahier des charges inclut d'avoir un dispositif d'alerte et de traitement des signalements de discrimination d'un côté et puis de violences sexistes et sexuelles qui est robuste et impartiel. Donc en fait, comme vous le voyez, c'est un label qui est quand même assez global sur l'égalité professionnelle, assez riche et assez complet. Il faut du coup, en tant qu'entreprise, candidater, puis ensuite être accompagné par la FNOR dans un peu l'état des lieux, voilà, de la politique égalité professionnelle. Et ensuite, c'est en plusieurs étapes, le dossier sera analysé par d'abord le bureau, puis la commission du label, au sein duquel le MEDEF siège au sein du collège des organisations patronales. Les syndicats de salariés sont également présents, et les représentants de l'État, puisque ce label est présidé par le service droit des femmes. Donc Clément va nous dire quelques mots dans quelques instants. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une démarche extrêmement solide afin de postuler. L'objectif de ce label, c'est d'accompagner les entreprises labellisées qui ont le label pour 4 ans. Il y a un premier audit donc initial, un audit de suivi au bout de 2 ans, puis un audit de renouvellement au bout de 4 ans. Et à chaque fois, en fait, l'entreprise est accompagnée par les remarques de la commission et du bureau, mais aussi par la FNOR. Et donc, ça pousse les entreprises labellisées à s'améliorer à chaque audit et à avoir des politiques égalité femmes-hommes, dont des procédures de lutte contre les VSST de plus en plus robustes. Donc, vous retrouverez dans cette slide le support de présentation, la page dédiée sur le site de la FNOR, beaucoup de documents. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à nous contacter aussi, puisque c'est sur la base du volontariat. Et sans plus attendre, je passe la parole à Clément Vieder, qui est chargé de mission EGAPRO et santé des femmes au travail au sein de ce service droit des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, qui préside du coup le label. Clément, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir.
Merci à toi Inès, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir intervenir cet après-midi. Brièvement, pour présenter mon service, donc Inès vous l'a dit, nous sommes le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, SDFE, et nous faisons partie d'une direction d'administration centrale qui s'appelle la Direction Générale de la Cohésion Sociale, DGCS. Statutairement, nous sommes rattachés au ministère des Solidarités, donc au cabinet des Solidarités de Madame Catherine Vautrin, mais en réalité, nous dépendons directement du cabinet d'Aurore Berger, la nouvelle ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Je voulais vous parler de l'appel à projet sur les violences sexistes et sexuelles au travail que nous avons lancé en 2022. En rappelant le contexte, évidemment, comme vous le savez toutes et tous, le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de ces 2 quinquennats. La lutte contre les violences faites aux femmes constitue donc une priorité du gouvernement, et ce, dans toutes les sphères de la société. En effet, les violences sexistes et sexuelles peuvent avoir lieu au domicile, dans l'espace public ou au travail. Concernant quelques chiffres, c'est une femme sur deux qui a déclaré avoir déjà été confrontée à une situation de sexisme ou de harcèlement sexuel au travail. Je ne reviendrai pas sur la définition de ces deux termes qui vous ont été donnés en début de séance. Elles sont ainsi malheureusement les premières victimes de ces violences. Au-delà du nombre de femmes touchées, l'impact de ces violences sexistes et sexuelles est majeur, puisque 26% des femmes victimes ont rencontré des problèmes de santé et 21% d'entre elles ont rencontré des difficultés professionnelles. Afin de lutter contre ce phénomène, des dispositions ont été adoptées, comme la loi numéro 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, dite loi Avenir Professionnel, qui a introduit l'obligation pour les employeurs d'informer leurs salariés en matière de harcèlement sexuel et de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour les entreprises employant moins de 250 salariés. Alors, pour répondre à la question qui nous a été posée sur le chat, l'objectif de ces référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, c'est de réaliser des actions de sensibilisation et de formation. Donc, ils ou elles sont formés au préalable par des associations, et de mettre en œuvre les procédures internes de signalement et de traitement des situations de harcèlement sexuel. En septembre 2022, le ministère chargé de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations a lancé un appel à projet portant sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail que je vais vous détailler de suite. Alors, doté d'un fonds de 800 000 euros, les objectifs principaux de cet appel à projet sont de mobiliser des acteurs régionaux et nationaux dans la mise en œuvre d'actions permettant de prévenir et de lutter contre les VSST. Pour cela, il vise à soutenir des projets nationaux ou locaux qui ont pour objectif de prévenir les VSST en s'adressant aux acteurs clés de l'entreprise, employeurs, RH, syndicats, salariés, mais aussi de connaître aux personnes victimes de VSST leurs droits. Trois actions sont prévues. D'abord, la prise en charge et l'information des victimes de VSST par la mise en place de dispositifs d'accueil ou d'accompagnement. Évidemment, une sensibilisation des acteurs concernés, que ce soit les collectifs de travail, les syndicats, les services de prévention sur les VSST et sur les droits des victimes. Et puis, bien sûr, la formation des acteurs accompagnés, des acteurs concernés, notamment dans les services de prévention et d'inspection du travail, pour un meilleur repérage et une meilleure prise en charge de ces victimes de VSST. Concernant les appels à projets, ce dernier s'adresse aux personnes morales à but non lucratif, les associations qui sont régies par la loi de 1901, les partenaires sociaux, les fondations, les établissements publics. Les critères de recevabilité, les projets sont soutenus de faire l'objet d'un cofinancement pour avoir un maximum un effet levier. Ainsi, pour être recevable, le projet devait être financé à hauteur de 20% par un financement tiers. Concernant les projets à vocation régionale, la demande de subvention ne devait pas être inférieure à 30 000 euros. Concernant les projets à vocation nationale, la demande de subvention ne devait pas être inférieure à 40 000 euros. Sur le calendrier, la date limite de candidature était fixée à octobre 2022 et les résultats finaux ont été annoncés par l'ancienne ministre des Droits des Femmes, Mme Isabelle Rome, en décembre 2022. Sur les résultats, en tout, ce sont 18 projets lauréats qui ont été récompensés, 6 porteurs de projets à vocation nationale, c'est-à-dire qui déploient leurs projets sur toute la France, et 12 projets régionaux. Concernant les porteurs de projets nationaux, ils sont suivis directement en centrale par le SDFE, par le bureau et par moi-même, et les projets régionaux sont suivis directement en région ou en département par notre réseau déconcentré des droits des femmes. Il faut savoir qu'on a une ou un directeur, directrice des droits des femmes et de l'égalité en région et un ou une déléguée départementale dans les départements. Plusieurs projets sont innovants. On a en fait deux sortes de projets, des projets qui portent sur la formation et sur l'accompagnement des référents harcèlement sexuel et violences sexistes et sexuelles au travail, et d'autres porteurs de projets qui ont des projets un petit peu plus innovants, dont le MEDEF, Inès, tu en parleras juste après, mais également la VFT, qui est un petit peu l'association de référence en la matière, qui a fabriqué des podcasts informatifs pour les victimes, et puis une association juste à côté de Marseille qui fait un théâtre forum. Voilà.
Merci beaucoup Clément. Et donc pour rebondir sur ta présentation de l'appel à projet, donc le MEDEF a été deux fois lauréat de cet appel à projet. Donc en fait, en 2019, dans le cadre d'un premier appel à projet que vous aviez mené sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, on avait organisé la première journée de sensibilisation à ces sujets qui avait lieu au MEDEF. Et à cette occasion, on a co-construit un escape game. Alors, faudrait mieux parler de serious game, de sensibilisation, de mise en situation avec l'entreprise spécialiste de jeux en entreprise qui s'appelle Coloc. Et donc, l'année dernière, on a repostulé à l'appel à projet dont Clément parlait, et on a été lauréat. Et cette fois, on a décidé de créer le jeu. Donc on l'a mis à jour, bien sûr, puisque entre 2019 et 2022, vous imaginez que beaucoup de choses ont évolué, mais on l'a aussi créé en format distanciel afin de pouvoir le déployer au sein de notre réseau élargi, c'est-à-dire au sein des fédérations professionnelles et MEDEF territoriaux sur tout le territoire. On a aussi intégré des énigmes sur les violences conjugales, ce qui n'était pas le cas en 2019, puisqu'on a depuis beaucoup travaillé au MEDEF sur l'incidence des violences conjugales sur le collectif de travail et donc en termes de risques psychosociaux. L'objectif sur toute l'année 2023, ça a été de déployer l'escape game en présentiel et en distanciel auprès de nos adhérents et de sensibiliser 900 personnes durant toute l'année 2023, début de l'année 2024. On y est presque. Il nous reste plus qu'une centaine de personnes. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Il nous reste quelques petites sessions à organiser. Comme je le disais, différents cas de VSST. ça dure 1h30 à peu près une session, on a 15 participants et chaque équipe se met dans la peau d'un nouveau RH qui est dans une entreprise donc du secteur tertiaire et qui doit faire un état des lieux des VSST dans cette entreprise pour ensuite identifier les situations problématiques, identifier quel type de violence, à quel type de violence ils sont confrontés, et puis enfin, que faire pour lutter contre ces agissements. Et puis, le jeu qui dure une quarantaine de minutes est suivi d'un débrief avec des experts, expertes du sujet, notamment pour répondre à toutes les questions, pour sensibiliser, aller plus loin dans la sensibilisation, et puis un livret de ressources utiles est envoyé à tous les participants s'ils souhaitent creuser la question. Et donc, qui de mieux que Géraldine Lardon du MEDEF Sud pour illustrer cet escape game, puisque vous avez été un des premiers MEDEF territorial ou MEDEF régional avec qui on a déployé cet escape game. Donc Géraldine, je te passe la main. Encore merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui.
Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que quand Inès et le MEDEF national nous a proposé de déployer ce serious game à destination de nos adhérents et des entreprises de notre territoire, on n'a pas réfléchi longtemps, hein, puisque c'est vrai qu'on a accepté très très rapidement, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on estime que ça fait partie de l'une de nos missions au MEDEF. Alors c'est vrai que la mission première, on va dire, d'une entreprise, c'est de développer son activité, mais pas que. Et quand on voit qu'une personne peut être victime ou témoin d'agissements sexistes, ça ne permet pas d'évoluer dans de bonnes conditions et de s'épanouir dans son poste professionnel. Et l'une des missions aussi de l'entreprise, c'est de pouvoir créer justement des bonnes conditions pour que chacun et chacune des salariés puisse donner le meilleur de lui-même. Donc j'allais dire que la première motivation pour cet escape game, ça a été, ce serious game, ça a été de répondre à notre devoir moral, si je puis dire, et en plus de les informer sur toutes les obligations qui incombent à l'entreprise et les sanctions dont parlait Florian tout à l'heure. L'autre raison, c'est effectivement qu'on puisse répondre à l'un des axes de mandature de notre nouveau président, donc M. Morisi, qui a fait de l'inclusion l'un de ses chevaux de bataille. Et quand on sait ce qu'est l'inclusion, à savoir l'idée que toutes les personnes, quelle que soit leur spécificité, leur différence, puissent être acceptées et valorisées et encouragées à participer pleinement à la vie de l'entreprise, eh bien pour nous, ça avait tout son sens de participer à cette opération. C'était totalement cohérent. Donc, nous avons créé un comité inclusion par l'emploi, à l'instar de ce qu'a fait le MEDEF national. En fait, c'était une déclinaison régionale de l'initiative du MEDEF national avec une visée un petit peu différente, puisque là, il ne s'agissait pas de faire un débat d'idées, puisque le MEDEF national le fait très bien et voilà, on n'avait pas vocation à faire la même chose. En revanche, on voulait quand même qu'on puisse construire un plan d'action concrète, opérationnel, pour sensibiliser les entreprises sur ces sujets sociaux et sociétaux, essayer de faire un petit peu bouger les lignes, les mentalités et faire progresser les pratiques des entreprises. Donc effectivement, l'escape game déjouer le sexisme en entreprise a été la première déclinaison opérationnelle de ce comité, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, je vais revenir un petit peu après sur l'escape game, mais on a mis en place aussi des ateliers collaboratifs. Des ateliers que nous avons montés avec le soutien d'acteurs majeurs de l'emploi et de l'insertion sur notre territoire, mais également des entreprises qui étaient un peu des précurseurs, un petit peu en avance sur ces sujets-là, et qui ont pu partager leurs bonnes pratiques sur 3 ateliers, à la fois un volet communication interne et externe, comment je sensibilise mes salariés en interne pour les embarquer, finalement les convaincre sur le bien fondé de mes démarches, voilà, et la communication externe sur comment je fais en sorte que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité vulnérabilité, que ce soit une vulnérabilité économique ou sociale, puisse être, on va dire, potentiellement puisse voir mon entreprise comme une entreprise dans laquelle elle pourrait s'insérer ou se réinsérer dans son poste. Voilà, ensuite un deuxième atelier sur l'adaptation des process RH. Ça paraît logique, mais on ne recrute pas et on n'intègre pas une personne dite éloignée du marché de l'emploi sans adapter ses process. Voilà, et ensuite un atelier sur les freins périphériques à l'emploi, comment j'identifie ces freins périphériques, comment je crée les conditions pour que la personne, le salarié ou le candidat, puisse être suffisamment en confiance pour me faire part de ces freins et comment je peux l'accompagner à les lever. S'en est suivi en toute logique aussi un autre webinaire sur l'illettrisme et l'illettronisme en entreprise. Là encore, comment détecter les situations des personnes concernées et comment je peux les accompagner. Et enfin, un autre atelier sur le management inclusif avec l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, là aussi sous l'impulsion du MEDEF national, et on les en remercie. Toutes ces opérations vont permettre de publier un vademécum sur être et devenir une entreprise inclusive, pourquoi et comment, à destination de nos entreprises, de nos adhérents, pardon, et des entreprises adhérentes de nos adhérents. Voilà. Et on souhaite aussi, alors là, je crois que c'est Sonia qui est en ligne aussi, Sonia Sebaï qui travaille avec moi, qui est en cours d'études pour réaliser une cartographie régionale des acteurs et dispositifs d'aide au recrutement. On sait qu'il y a énormément d'acteurs qui œuvrent en faveur de l'emploi et de l'insertion. Rien qu'à Marseille, nous avons 477 associations qui œuvrent en ce sens. Bon, toutes ne sont pas efficaces, bien évidemment, donc il faut faire un petit peu le tri pour que les entreprises puissent se repérer. Dernier point par rapport donc à ce qui nous intéresse, donc le Serious Game sur déjouer le sexisme en entreprise. On a eu plusieurs indicateurs, plusieurs feux verts, on va dire, positifs suite à ce Serious Game. Le premier, c'est le nombre de participants. On a eu 46 participants. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de mise en place opérationnelle, on a fait 15 participants par créneau d'une heure, et 16 donc pour le dernier, avec à chaque fois 3 salles de 5 personnes et un animateur. Donc ça crée des petits groupes, mais des petits groupes qui sont qui permettent une meilleure participation, une participation plus active des personnes pour une meilleure assimilation aussi des apports. Donc voilà. Ensuite, l'autre point gros positif, c'est la diversité des fonctions des personnes qui se sont inscrites. Alors, sans surprise, on a plus d'un quart qui sont affectés à des services de ressources humaines, mais on a également des personnes qui sont affectées au service hygiène, qualité, sécurité, environnement ou RSE dans sa globalité, des numéros 1 également, mais aussi d'autres fonctions, les achats, des innovations, les R&D, la communication. Donc, ça nous prouve bien que ces sujets-là concernent tout le monde et pas uniquement le numéro 1. Voilà. Ensuite, pour l'aspect qualitatif, c'est vrai qu'on a eu des retours également positifs sur le format, qui est un format ludique. Mais ce n'est pas parce que c'est ludique qu'on ne peut pas apprendre des choses sérieuses. Et ça a été le cas dans le cadre de cet Escape Game, puisque voilà, les participants ont bien pu comprendre ce qui pouvait relever de ce qu'on pouvait penser être de l'humour, comme disait Inès, mais qui en fait sont des agissements sexistes.
Merci beaucoup Géraldine et merci de nous avoir montré comment les démarches de lutte, les sensibilisations, lutte contre le sexisme, lutte contre le VSS peuvent s'inscrire dans une démarche globale sur l'inclusion et sur comment devenir une entreprise inclusive. Donc on est ravis que le MEDES Sud, qui est très actif sur ces sujets et qui est toujours partant pour faire des projets ludiques et intéressants avec nous, que vous ayez pu témoigner aujourd'hui. Donc tout de suite, passer la parole à Florence Chappert, nous fait le plaisir d'être avec nous aussi aujourd'hui et qui est responsable de la mission égalité de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et là, c'est plutôt comment est-ce qu'on accompagne les entreprises sur la lutte contre les VSST. Et on va revenir d'ailleurs sur le sujet des référents harcèlement.
Je vous remercie d'avoir invité donc l'ANACT, qui est un établissement public unique désormais, avec 16 antennes régionales, agences régionales. Alors voilà comment nous accompagnons les entreprises sur le sujet. Depuis 2019, où d'ailleurs l'ANACT avait été lauréate d'un premier appel à projet comme le MEDEF, effectivement, et nous avions produit, vous en avez une petite image, un cycle de webinaires qui est toujours sur le web, sur YouTube, 4 fois 1 heure, donc pour s'initier à toutes ces questions, à la fois juridiquement. Et puis également, nous avions déjà présenté ce qui constitue notre approche, à savoir qu'est-ce que c'est la prévention primaire, secondaire, tertiaire des violences sexistes et sexuelles au travail. Alors, comment les ARACT ou l'ANACT peuvent vous accompagner, effectivement, les entreprises? Tout d'abord, c'est pour prévenir et le risque le plus en amont possible. Effectivement, pour nous, les VSST, c'est un risque professionnel. Ça n'est pas qu'une question de comportement, c'est donc, comme vous l'avez très bien dit, une des obligations de prévention en matière de santé et sécurité au travail de l'employeur. Et nous, ce que nous avons pu identifier dans nos travaux de terrain, c'est qu'il n'y a pas que des facteurs individuels qui surexposent les victimes à ce type de comportement ou de fait, comme vous dites. Il y a aussi des facteurs de risque liés à l'organisation, liés à l'entreprise, comme par exemple être dans une entreprise avec une très faible mixité ou un service avec une très faible mixité, être dans une entreprise très hiérarchisée ou très peu hiérarchisée, avoir dans son entreprise beaucoup de contrats précaires, avoir une activité qui fait qu'on travaille le soir, la nuit, avec des déplacements, avoir une activité en relation avec le public. Tout ça, ce sont des facteurs de risque. On en a identifié une quarantaine, mais on a aussi identifié une quarantaine de facteurs ressources en prévention, et vous en avez cité un certain nombre, entre le règlement intérieur, l'accompagnement au parcours d'intégration, etc., etc. Et alors, nous accompagnons également les entreprises à introduire le risque de violence sexiste sexuelle dans le document d'évaluation des risques professionnels. En prévention secondaire, il s'agit surtout d'aider et d'accompagner les entreprises pour que tout un chacun puisse reconnaître, dépister les situations à risque. Et là, effectivement, nous formons. Alors, nous pouvons former le grand public dans une entreprise, le personnel, la direction, mais plus particulièrement les référents, et je vais en parler, les animateurs du jeu. Alors, quel jeu? Effectivement, comme le MEDEF a réalisé cette Serious Game, nous avons réalisé un jeu de plateau dont tous les contenus ont été validés par le service du droit des femmes et pour l'égalité. C'est un jeu de plateau qui s'est basé à partir de 70 situations réelles de travail et qui permet, dans des parties de 3 quarts d'heure, aux personnes, aux salariés, de pouvoir faire la différence entre une situation non sexiste, une situation de sexisme bienveillant, masqué ou hostile, une situation de harcèlement sexuel ou une situation d'agression sexuelle ou de viol. C'est un outil que nous commercialisons, même si nous sommes établissement public, parce qu'il y a des coûts d'impression à 216 €, mais qui peut être utilisé de multiples fois dans l'entreprise. Donc, nous pouvons former aussi des animateurs de jeux. Nous pouvons aider l'entreprise à mettre en place un plan de communication. Et puis, en matière de prévention tertiaire, alors ce qui est moins l'ADN de l'ANACT, qui cherche plutôt à intervenir en prévention primaire, nous pouvons aider l'entreprise à concevoir une procédure de recueil et de traitement des signalements, d'accompagnement des personnes ou d'analyse des cas. Toutes les ressources que nous avons sont indiquées dans le lien qui est plus bas. Mais, alors, diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Ce que nous sommes en train de préparer, puisque nous sommes effectivement lauréat du second appel à projet. C'est au printemps, alors plutôt mai-juin, nous allons publier un kit VSST, mais ciblé sur les référents, pour les aider à agir. Ce n'est pas seulement pour les sensibiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matériaux sur le web pour les sensibiliser, ou beaucoup de formations. Nous allons les aider à passer à l'action. Alors, aussi bien sur la question de la mission du référent, il y avait tout à l'heure une question, effectivement, la mission du référent est très peu définie par la loi. Donc, nous allons proposer, par exemple, une fiche repère sur les différents volets de la mission du référent, également une fiche outil pour élaborer sa mission de référent. Alors, nous nous adressons aussi bien aux référents employeurs qu'aux référents CSE, mais avec des distinctions, bien sûr. Nous avons élaboré aussi sur ma mission de référente, qui est la première partie, comment constituer un groupe de travail, comment élaborer du route. Nous avons fait une foire aux questions parole de référent. Pourquoi ? Parce que ce kit est élaboré à partir d'un atelier, de plusieurs ateliers qui ont réuni 30 référents l'année dernière. Et puis, vous allez trouver des outils pour prévenir en amont le risque de VSST, comment faire ce fameux diagnostic, comment négocier l'égalité, vous en avez parlé. Et puis, dans la partie 3, en jaune, en orange, comment informer, sensibiliser, former, comment concevoir une affiche, comment choisir des outils ludopédagogiques, des vidéos, comment accompagner les managers, et en dernier lieu, comment élaborer sa procédure. Vous aurez aussi à disposition modèle de déclaration de plainte, comment distinguer harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc. En tout, ça sera un kit très complet de 25 fiches et outils, avec également des cas d'entreprise, des témoignages très approfondis de démarches d'entreprises qui ont réussi à petits pas à mettre en place un certain nombre d'actions de prévention.
Merci beaucoup Florence. Et alors on mettra les liens, on laissera les liens que vous avez renseignés dans le support et dès que ces fiches outils seront publiées sur votre site internet, on fera bien sûr en sorte d'en faire la promotion auprès de notre réseau et pourquoi pas de vous refaire intervenir à cette occasion si vous le souhaitez. On a vu qu'il y a pas mal de questions techniques dans le chat. Alors on vous enverra un document en fait FAQ où on prendra le temps de répondre de manière précise à toutes vos questions. Comme ça on aura plus de temps.
Effectivement, nous rencontrons des entreprises de moins de 11 qui mettent en place des référents. Alors, dans ce cas-là, c'est un référent souvent mixte qui est à la fois, en quelque sorte, un référent qui représente les salariés et qui représente l'employeur. Voilà, c'est souvent une personne, finalement, à double casquette. Idem, quand vous êtes dans une entreprise de moins de 250, rien ne vous empêche de mettre en place un référent employeur qui va faire binôme, justement, avec le référent CSE, qui est obligatoire pour toute entreprise de plus de 11. Je veux bien dire un mot peut-être par rapport à l'enquête. Nous, l'expérience de l'enquête qu'on a, c'est que c'est quand même compliqué à mener parce que une enquête met en cause des personnes. Une est victime, l'autre est auteur. Donc, c'est des personnes qui chacune ont leur dignité. Et donc, c'est important, bien sûr, de le faire dans avec beaucoup de confidentialité, mais aussi d'objectivité. C'est souvent compliqué à ce moment-là d'arriver à associer à la fois le référent CSE, le référent employeur. Dans les cas qui sont trop compliqués, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire appel à un cabinet, mais un cabinet spécialisé sur les questions de violences sexistes et sexuelles, pas un cabinet RH trop généraliste ou de prévention, mais trop généraliste, un organisme spécialisé qui puisse être choisi de manière paritaire, à la fois par le CSE et puis par l'employeur. C'est souvent très compliqué de mettre en cause un auteur qui est, par exemple, un membre de la direction ou un membre d'un CSE. C'est pour ça que de passer par une structure externe permet à l'entreprise d'avoir un petit peu plus de distance, un tiers externe. Mais faut-il fixer un cahier des charges un petit peu précis et pour réellement pouvoir avoir cette objectivité des situations.
Merci beaucoup Florence. Avant de clôturer cette session de sensibilisation, tout d'abord, je remercie à nouveau nos trois intervenantes et intervenants d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui pour sensibiliser sur ce sujet. Là, les trois règles d'or qu'on rappelle, qu'on vous avez vu aujourd'hui, donc afficher un engagement fort, sensibiliser, former, puis appliquer le principe de tolérance zéro, dont on a parlé tout au long de ce webinaire. Le MEDEF a publié un guide en 2022 sur la lutte contre les agissements sexistes et les violences sexuelles, où vous retrouvez toutes les informations qu'on a partagées aujourd'hui, et notamment, on n'a pas eu le temps, parce que sinon on aurait pu y rester peut-être toute l'après-midi, mais mentionner la question des violences conjugales en entreprise. Donc on l'a intégré dans ce guide, donc si vous souhaitez aller plus loin, vous voyez aussi que on donne des exemples de chartes d'engagement qui peuvent aussi aiguiller les engagements d'une entreprise. Je rappelle que cette semaine, c'est la semaine de mobilisation contre le sexisme en entreprise, donc n'hésitez pas à vous mobiliser, à partager des ressources, du contenu, des bonnes pratiques pour inspirer les uns et les autres à s'engager sur ce sujet. Merci beaucoup.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.